Le psaume sous les étoiles, chapitre 6. Le soleil était déjà haut quand je fus réveillé par un bruit lointain de tambour. J'envoyai Méric à cheval reconnaître ce que c'était. Dans la cuisine du mas, Florette et Souleyrolle, debout depuis longtemps, préparaient le déjeuner du matin. Dès qu'elle me vit dehors, ma chère petite vint se jeter dans mes bras. Elle m'apparaissait maintenant en pleine lumière. Je la trouvais un peu maigrie et pâlie. Dans son clair visage, il semblait que les yeux eussent tout envahi, tant ils étincelaient, magnanimes et purs. En voyant sa tête rasée, je fus ému jusqu'aux larmes. Et pourtant qu'elle était jolie ainsi. Elle avait l'air un peu d'un jeune garçon, svelte et fier. Elle redevenait pour moi l'enfantine sœur de jadis. Et comme je la serrais sur mon cœur, Méric s'en revenait aux vives allures, suivi de trois cavaliers, dans lesquels je reconnus bientôt notre chef, avec Espérandieu et Lucrèce la Vivaroise. « Victoire !» criait Lucrèce, du plus loin qu'elle nous voyait. « Nous avons remporté la victoire !»« Ils étaient plus de 500, » ajoutait Espérandieu. « Nous les avons mis en déroute et poursuivis jusqu'aux portes d'Alès. » Mais Jean Cavalier mettait pied à terre, venait à nous. Il m'embrassa, baisa la main de Florette. « Servante de Dieu, lui dit-il, louez soit l'Éternel qui vous a délivré. Vous serez notre sœur, comme Jean Peyrobe est notre frère. Et s'il vous plaît demeurer au désert, tous les osards vous serviront, vous leur serez sacrés. » Florette lui répondit, « Jean Cavalier, si Dieu t'a suscité pour rebâtir les temples et délivrer les captifs, dispose de moi à ta volonté pour la bonne cause. » Elle serra Lucrèce tendrement dans ses bras. « Vivaroise, lui dit-elle, il me semble que je t'ai toujours connu. Tu m'as aidé à Nîmes au péril de tes jours, tu m'enseigneras le courage et la sainteté. »« Hélas, dit Lucrèce, quel bien te ferais-je, pauvre et seul que je suis, à toi, Florette, qui monte du désert appuyée sur ton bien-aimé. J'ai reçu les dons, mais non point les grâces. Je prêche, mais l'esprit ne me visite pas, et je le prie en vain. T'as-t-il visité, toi, ma sœur ?» « Non, dit Florette subitement attristée. Il ne me répond pas. J'attends avec angoisse et tremblement qu'il veuille enfin m'élire. » Cependant, la bonne Souleyrolle, émerveillée de voir dans sa gloire Jean Cavalier, qu'elle avait connu enfant, disposée sur la table, aidée de son petit goujat, des missons, des jambonneaux, des pélardons et de la rebarbe, avec plusieurs vieilles bouteilles de ce vin des coteaux de Massillargues qui fait chanter, comme on dit, la cigale. On se mit à table, et Cavalier, ayant fait la prière, le capitaine Espérandieu nous conta ce qui était arrivé la veille, 24 de décembre, dans les prairies d'Alès, auprès du mas Covi, comment la grande assemblée des fidèles, venue de toutes parts, fut troublée tout à coup par l'attaque du chevalier d'Aiguin, gouverneur d'Alès, à la tête de 500 hommes, cavaliers et piétons, et comment nos frères l'avaient mis en déroute. Puis on dit adieu à Souleyrolle, qui s'attachait à Cavalier, ne lâchait point le pan de sa veste. « Frère, lui disait-elle, la voix coupée de sanglots, quand tu délivreras les captifs, n'oublie pas mon Souleyrolle, qui est aux galères de Sète. Tu l'as connu, c'est le meilleur de tous. Tu sais quel travailleur il fut. Ramène-le-moi, frère, je t'en supplie, au nom de ta sainte mère qui fut ma compagne d'enfance à Ribaute. » Ainsi, dans toute notre terre, s'allumait une foi ardente en la mission providentielle de Cavalier. Un temps de galop nous mena vers la troupe, et Florette s'émerveillait, voyant pour la première fois ce grouillement d'hommes et de chevaux. Ceux de ma brigade, en m'apercevant, nous entourèrent aussitôt, sachant d'où nous venions, saluant ma fiancée. Nous marchions triomphalement, précédés de quelques enfants perdus à cheval, et sans aucun souci des troupes ennemies qui pouvaient surgir. De tous les mas et hameaux d'Atuèche, de Bouzène, de Solier, de Molière, le peuple en foule accourait au bruit de nos tambours, venait avec nous à l'assemblée. Nos cavaliers s'en allaient jusqu'au seuil des habitations, faisaient monter en croupe les femmes et les jeunes filles. On passa à peu de distance du château de Tornac, où une centaine de fusiliers tenaient garnison. Le frère Lagrandeur s'en fut caracolé devant les douves, insultant les soldats. « Eh, mange pauvre ! » criait-il. « Tueur de femmes, lécheur de bottes, monstre d'enfer, sortez un peu qu'on vous regarde. Lâche que vous êtes, Voyons si vous avez le foie rouge, et oserez-vous mesurer avec des hommes ?» Rien ne bougeait dans le château, mais comme la grandeur s'approchait un peu trop, un coup de fusil partit d'un créneau et lui cassa le bras. Bientôt, ayant dépassé le monastier, nous arrivions dans la fraîche vallée de l'Ourne, aux acclamations des Cévenols, campés dans les prairies et sous les pins. Nous étions là dans l'allégresse d'une radieuse matinée. Près de 800 combattants, avec des milliers de paysans de tout sexe et âge, venus de toutes parts, à pied, à cheval, en carriole, pour entendre la parole de Dieu. Je voyais pour la première fois le fameux chef Roland Laporte. Il n'avait guère que 2 ans de plus que cavalier, mais en paraissait bien davantage. Assez grand, le visage pâle sous de beaux cheveux châtains, il était tout empreint d'une gravité douce et fière, et son regard lumineux répandait autour de lui une conviction ardente. Et comme nous embrassions Abraham Mazel, mon frère Nicolas qui nous cherchait vint se jeter dans nos bras. Il venait du Pompidou, où on avait mis 2 compagnies de fusiliers qui vivaient à discrétion. Ma mère et Nicole, avec la tante Annette, avaient heureusement pu s'enfuir à leur arrivée et s'étaient tenues cachées tout un jour dans les bois. Ce n'était donc point le moment de mener Florette au Pompidou. Mais des chants alternés et mélodieux montaient du fond de la prairie et l'on se porta en foule. Des jeunes filles d'Anduze chantaient à 4 voix le psaume si noblement joyeux. « Orsus tous humains, frappez en vos mains, qu'on oie sonner, qu'on oie entonner le nom solennel de Dieu éternel. » Florette courut vers elles et mêla sa voix aux leurs. Elles étaient 15, toutes jeunes et fraîches comme des fleurs. Alignées sous les pins parasols, elles rythmaient la cadence, frappant dans leurs menottes et souriant, accompagnées par tout un peuple que l'on voyait ravi aux larmes d'ouïr un psaume à 4 voix, harmonisé par Claude Goudimel. Car, depuis plus de 20 ans, hélas, les chœurs huguenots s'étaient dispersés et les fidèles ne chantaient plus qu'à l'unisson quand ils pouvaient s'assembler. Et je pensais au récit du malheureux Timothée Deleuze lorsqu'il évoquait cette floraison de musique nationale qui, surgit des foyers, s'épanouissait dans les chœurs des églises, promettant à la France une gloire musicale bien à elle, subitement éteinte par la persécution. Nous nous étions mêlés à la multitude. Chacun avait apporté des vivres et on les partageait. On s'interpellait d'un groupe à l'autre, on riait, on échangeait des nouvelles comme aux foires et aux fêtes votives. Maintenant, des rassemblements se formaient, des prières s'élevaient çà et là, et déjà quelques prophètes prophétisaient, la plupart tout jeunes. On faisait cercle autour d'une belle jeune fille, Marguerite Boll, du grand Galargue qui avait reçu les grâces. Marguerite parlait en langue d'oc, n'employant le français que pour citer les paroles de l'esprit. Elle disait « Nous étions partis de Parignargues à l'entrée de la nuit et allions à une assemblée convoquée dans une clairière vers la source du ruisseau de Saint-Mamère. Une fois dans les bois, nous nous sommes égarés sans pouvoir plus trouver le bon chemin et nous étions là, fort en peine, quand je fus tout soudainement saisi de l'esprit. « Je t'assure, mon enfant, me dit-il, que j'allumerai un flambeau et sonnerai une musique qui vous indiqueront le lieu que vous cherchez. » Et aussitôt, nous avons vu une lumière qui, tombant du ciel comme une fusée, s'est arrêtée sur le sommet du Pêche Rouge, cependant qu'une voix céleste chantait le psaume « Le Seigneur est la clarté qui m'adresse, et mon salut, que dois-je redouter? Le Seigneur est l'appui qui me redresse, où est celui qui peut m'épouvanter ?» Ainsi, nous avons pu gagner sans peine le lieu de l'assemblée en marchant vers la lumière et la voix qui s'éloignaient à mesure que nous nous approchions d'elle. Mais durant que les assistants s'émerveillaient, une fois de plus, de ce miracle qui bien souvent se produisit, une foule nombreuse s'empressait autour du prophète Cabri. Et je m'en étonnais un peu car il n'était pas fort éloquent à l'ordinaire. Une discussion passionnait le groupe comme nous approchions. « Je l'ai vu la première !» criait une femme en cagnotte noire. « Oui, oui, je le soutiendrai devant Dieu. »« Je te dis que c'est moi !» protestait une autre. « Et taisez-vous !» dit un vieillard. « Nous l'avons tous vu, voilà la vérité. »« Quoi donc ?» demandai-je. « La palombe du paraclet. Nous l'avons vu descendre sur la tête de Cabri dans le moment qu'il entrait en extase. » De bouche en bouche, la nouvelle de cet autre miracle se propageait. On accourait de tous côtés, on s'embrassait, on tombait à genoux, on priait, on chantait. Une ferveur mystique allumait tous les visages. Et en les voyant, il me semblait que j'allais défaillir dans une sorte d'éblouissement, comme pris de vertige au bord des précipices. Quant à Florette et à la Vivaroise, je sentais bien que, brusquement, je n'existais plus pour elles, et j'avais presque peur de leurs yeux d'abîme. J'étais bouleversé. L'exaltation religieuse de ma bien-aimée m'emplissait à la fois d'admiration et de terreur. Il me semblait qu'une implacable divinité allait me la ravir. Et, sans bien le comprendre, j'étais jaloux de ses extases. Cependant, le prophète Abraham se disposait à célébrer la Sainte Cène. On avait dressé dans les prés, au bord de l'Ourne, une vaste table où furent posés le pain et le vin. Florette et Lucrèce se mirent tout de suite au service du ministre, extraordinairement appelé, c'est ainsi qu'on nommait nos prophètes et prédicateurs. Elle emplissait la coupe qu'Abraham présentait ensuite aux fidèles. Pendant toute la cérémonie, le chœur à quatre voix des jeunes filles d'Anduze chantait le beau psaume « Ainsi qu'onouit le cerf bruire, pourchassant le frais des eaux, ainsi mon cœur qui soupire, Seigneur, après tes ruisseaux, va toujours criant, suivant le grand Dieu vivant. Hélas donc, qu'en sera-ce que verrai de Dieu la face ?» Et je fus là témoin d'un spectacle dont le souvenir me trouble encore. Ayant fait ranger les assistants sur une ligne, Abraham passait rapidement devant eux, les regardait fixement l'un après l'autre et désignait du doigt ce que l'esprit lui indiquait n'être point encore digne de la communion. « Pauvres chrétiens, leur disait-il, affamés de la pâture céleste, assoiffés de l'eau qui désaltère, allez prier Dieu pour qu'il vous purifie et revenez ensuite. » Et ceux qui étaient ainsi marqués s'en allaient en sanglotant, tombaient à genoux à quelque distance, pleins d'une foi profonde et enivrés d'extase. Après la Sainte Cène, Abraham célébra plusieurs mariages, selon la liturgie de l'Église réformée de France. Les diacres les inscrivaient dans un registre. Chaque ministre, extraordinairement appelé, avait le sien. Et ces minutes de l'état civil huguenot étaient conservées secrètement dans des cachettes que connaissaient les anciens du pays. Il fut décidé qu'Abraham bénirait notre union le lendemain matin, car l'heure pressait et la foule voulait entendre Jean Cavalier. Notre chef monta sur une éminence qui bordait la prairie. « Frères et sœurs, dit-il, avant de poursuivre la célébration du culte, je vous annonce une bonne nouvelle. Florette Baduel, l'apôtre des Cévennes, est délivrée. Vous savez qu'on l'avait enfermée au grand couvent de Nîmes. Dieu a permis qu'elle en fût arrachée la veille du jour où ses bourreaux devaient la jeter dans la tour de Constance. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, frères et sœurs, je demande en votre nom à Florette Baduel qu'elle fasse aujourd'hui la prière. » Une rumeur agita la foule. On se poussait pour apercevoir ma chère petite fille aux cheveux rasés. Or, elle avait pâli. À genoux maintenant, elle priait, les yeux clos. Une sorte de frisson l'agitait, et de sa bouche sortaient confusément de plaintives paroles. Quelqu'un cria. « Florette Baduel, reçois les grâces! L'esprit l'a saisi, à genoux, tous !» Alors, la foule immense se prosterna dans un silence impressionnant. Et, perdu d'angoisse, j'aurais bien voulu, moi, prendre cette Florette dans mes bras, l'emporter au loin. Mais elle, tout à coup, se dressa. Elle gravit le sommet du monticule. Son visage rayonnait maintenant d'un bonheur indicible. Et, perdu dans sa vision, nous écartant d'un geste de la main, elle parla. « Je te commande, mon enfant, dit-elle, de porter la parole à mon peuple épars et pervers. Je suis le pasteur d'Israël, le fort de Juda, qui punit sur les fils l'iniquité des pères et qui fait miséricorde aux miséricordieux. Crie au midi et au septentrion, malheur à ceux qui jugent, car ils seront jugés, malheur aux renieurs de Dieu, car ils pleureront des larmes de sang, et je renverserai leur demeure, et ma charrue éventrera les ruines de leur ville. » Tu mèneras mon peuple parmi les forêts du désert, et ma palombe sortira de la caverne où elle niche, afin que tous la voient prendre son vol vers l'Orient. Car je t'ai choisi, mon enfant, pour annoncer la joie de l'aurore après les horreurs de la nuit. Vous erriez sous l'amas des ténèbres, un voile épais vous cachait les étoiles et vos appels de détresse du sein des taillis épineux montaient si rauques et sauvages que les rossignols s'étaient tus. Mais voici l'alouette qui tirelire aux premières pâleurs du jour et vos cœurs bondissants retrouvent le chemin perdu. Regarde, mon enfant, regarde vers mon trône et point ne désespère si tu ne me vois face à face. Par l'amour et la foi tu me verras. Et le jour vient que tu contempleras mes cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite du Père. » Elle parlait d'abondance de sa voix d'enfant d'autrefois. L'inspiration l'avait transfigurée. Jamais elle ne fut si belle. Son visage s'illuminait d'un sourire naïf et tendre. Je pense que les anges sourient ainsi. Nous étions tous suspendus à ses lèvres. La plupart des assistants pleuraient. Elle continua. « En ce jour de Noël, aurore de la renaissance universelle, rappelle, mon enfant, rappelle à tes frères le symbole de la palombe. Ô ma palombe, qui te cache entre les fentes des rochers, au fond des grottes montagnardes, montre-moi ta face et me fais ouïr ta voix, car ta voix est douce et ta face est belle. Ainsi parle mes frères, le divin époux de l'Église qui bondit vers elle, sautant collines et précipices comme fait le chevreau de la biche. Cet époux divin n'est autre que le Christ figuré par ses fidèles serviteurs qui sont persécutés et forcés à se retirer sur les monts, à courir le désert comme fait le chevreau de la biche quand le chasseur le poursuit. Cet époux divin se présente à l'Église pour la consoler. Ô ma palombe qui te cache entre les fentes des rochers au fond des grottes montagnardes, l'Église est la palombe du Christ, car la palombe est un oiseau pur et net qui ne se souille point dans ses ordures. Pareillement, l'Église est nette des ordures du monde. Cela se peut-il dire, mes frères, de l'Église de Rome, qui depuis des siècles s'enfonce et s'englue dans toutes sortes d'impuretés? Non, elle ne peut se prétendre la palombe du Christ. La palombe est un oiseau doux et tranquille. Elle est l'image de la Sainte Église qui se modèle sur l'époux divin, lequel a dit « Bienheureux les pacifiques !» Arrière donc, mes frères, arrière cette église de Rome qui est dure, sans pitié, pleine de gens cruels qui dépouillent leurs frères, les tyrannisent, les chassent dans leurs maisons, les traînent dans les géoles et les couvents, leur font souffrir les tourments de la torture, des galères, de la potence, de la roue, du bûcher. Ah, elle ne peut se dire la palombe du Christ, bel oiseau pur du matin lumineux. Elle est le noir corbeau qui a pour pâture les corps morts des serviteurs de Dieu. Elle ne peut se dire la Sion sainte. Elle est l'infâme Babylone, ivre du sang des martyrs. Ô ma palombe qui te cache entre les fentes des rochers, au fond des grottes montagnardes, hélas, quel triste séjour! Cette épouse divine n'a pas pour demeure le palais des rois. Elle n'habite point les autels magnifiques des prélats de l'Église romaine. Sa condition est comparable à celle des anciens patriarches et des fils d'Israël, opprimés par les Égyptiens et les Moabites, à celle de David quand Saül le persécutait, à celle des justes de l'Ancien Testament qui, selon saint Paul, avaient erré dans le désert couvert de peaux de brebis et de chèvres, et desquels le monde n'était point digne. À celle, enfin, de nos frères des vallées vaudoises qui se sont cachés longtemps dans les serres des Alpes et qui, pourchassés de partout, se retiraient dans une immense caverne où le jour ne pénétrait point. Ah, mes frères, sommes-nous dignes, nous, de faire comme eux, de devenir, pour notre part, la palombe du Christ? Ah, malheureux pécheurs, hypocrites par jure, détestables renieurs de Dieu, nous qui, depuis si longtemps, nous voterons dans une apostasie abominable. À mesure que sa voix éclatait davantage, des sanglots déchirants s'élevaient de toutes parts. Les femmes soupiraient « Miséricorde ! Grâce pour nous, Seigneur !» Les hommes se prosternaient, le front dans la poussière. « Ah, je vous en supplie !» continuait Florette. « Au nom de nos aïeux qui confessaient le Christ, au nom du salut de nos âmes, au nom sacré des morts, abandonnons aux ronces la tunique du renégat. Revenons à la foi de nos pères. Levons-nous tous pour libérer les captifs et rebâtir les temples. Voici que dans la nuit, le glaive de Gédéon a resplendi sur le désert de la patrie. Il glace l'effroi des méchants, et si nous le suivons en race, il triomphera des puissances du mal. Au désert, frère, au désert, c'est au désert que s'abrite la sainte palombe. C'est au désert que nous serons dignes de la victoire, pour la gloire de Dieu et l'espérance de sa grâce. Amen. » Florette s'était tue, et la foule se pressait autour d'elle. On l'entourait. Abraham lui baisait les mains, Lucrèce l'embrassait, un enthousiasme débordant l'enveloppait. Et moi, ignoré, écarté, repoussé, je n'étais plus rien. Je ne la voyais plus. Je sentais que ses yeux ne cherchaient pas mes yeux. Dans le flot de cette multitude, j'étais comme un noyé parmi les vagues de la mer, et je me réfugiais, perdu de jalousie et de chagrin, dans une chambre du mas de la Cano, où peu après Florette me retrouvait en larmes. « Et quoi, Jean? Tu pleures? Tu te caches loin de moi? En ce jour de gloire, tu me fuis? Qu'as-tu, mon frère, mon époux? Dis-le, je t'en conjure. » « Je ne suis pas ton époux, Florette, tu le sais bien, et maintenant que l'esprit te visite, voudras-tu m'épouser jamais? Ah, j'ai le cœur déchiré !» Elle était debout devant moi, elle me prit la tête dans ses bras, la serra contre elle, et je sentais battre son cœur sur ma joue. « Jean, disait-elle, ton chagrin m'attriste, et je ne le comprends pas, et ne crains-tu point de courroucer le ciel en pleurant, quand tu devrais te réjouir des grâces qu'il m'accorde ? Oublies-tu que je t'aime et que demain nous serons liés pour toujours en une même chair devant Dieu ? Ah, dis-le encore, dis-le que nous serons époux demain. Je ne puis vivre si tu n'es pas tout à moi, chère petite fleur, et c'est pourquoi sans doute je pleure. Pardonne-moi mes larmes. » Au souper, le soir, Cavalier nous apprit que dans le Rouergue, un grand soulèvement s'organisait sous l'inspiration hardie de l'abbé de Labourlie, cadet de l'illustre famille de Guiscard. Là-haut, catholiques et protestants s'unissaient pour secouer le joug et revendiquer les droits du pays. Labourlie nous proposait une alliance, à la condition que nous nous engagions à ne plus exercer de représailles ayant un caractère de guerre de religion. Une vive discussion s'engagea à ce sujet. Ravanel, Catina, dans leur haine aveugle des papistes, ne voulaient aucun accord avec eux et la liberté de brûler les églises et massacrer les prêtres. Je partageais l'avis de Cavalier et de Roland, et sentait toute l'importance des propositions de Labourlie. Notre chef ajouta « J'ai aussi des nouvelles du Vivarais. Un pasteur venant de Genève a pu y pénétrer. Dans les Boutières, au pays de V, on signale de nombreuses assemblées, et des messagers sont venus nous presser de passer l'Ardèche. Ils assurent que tout le pays se soulèvera dès que nous paraîtrons. » Cependant, comme perdu dans une méditation lointaine, Abraham disait lentement « « Plus j'y songe et plus je m'assure en Dieu que ce pasteur n'est autre que Daniel de Leuze. S'il en est ainsi, réjouissons-nous, mes frères, car les paroles de l'Esprit vont s'accomplir et les temples ressurgir de leurs ruines. » À la voix chaleureuse de Mazel, un enthousiasme singulier nous pénétrait. Florette murmurait « Ô Éternel, que ce soit lui, que ce soit mon oncle, mon cher oncle Daniel, Dieu de mes pères, « Envoie-le !» Après maintes discussions, on se sépara. Florette allait reposer avec la Vivaroise dans la plus belle chambre du mas. Pour moi, ayant rejoint mes compagnons sous un hangar, j'étais si heureux que je ne dormis guère. Mais voici qu'à la prime aube, Lucrèce venait m'appeler. « Frère, Florette Baduel veut te voir, sans retardement. » Je trouvai ma fiancée tout en pleurs. « Ô Jean !» dit Florette, « mon Jean chéri !» Quelle peine est la nôtre! Il est impossible qu'Abraham nous marie. Je suis sûr maintenant que c'est bien mon oncle, Daniel de Leuze, qui est entré en Vivarais, et l'esprit m'a fait connaître que Daniel seul doit ménir notre union. Je fus comme foudroyé. Et quoi, Florette? Est-il possible que tu me blesses au fond du cœur, et te laisseras-tu gouverner par un songe? Car c'est un songe, n'en doute pas, qui t'a troublé. Et comment peux-tu croire, ma grande amie, toi qui as l'âme ouverte et généreuse, que l'esprit t'ait véritablement dicté cette étrange décision, qui est pour moi, sache-le, comme une sentence mortelle, car si nous devons attendre l'arrivée du ministre, Daniel, pour notre mariage, je crains fort que tu ne sois jamais à moi. Et que vais-je devenir alors ? Elle pleurait à chaudes larmes. « Jean, mon frère, mon époux chéri, ne me blâme pas, je t'en conjure. » J'obéis à un ordre formel dont je souffre autant que toi. Je suis sûr que l'esprit m'a parlé. » Je dus finalement la consoler, car son chagrin me faisait souffrir plus que tout. J'appelai la Vivaroise. « Ami, lui dis-je, je te confie Florette. C'est une petite fille qui a besoin que tu lui aides. je dois aller, moi, veiller à mon service, quelle que soit ma déception et ma douleur. « Frère, apaise ton cœur, » dit Lucrèce. « Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse, et sois assuré que le ministre Daniel vous bénira bientôt. Jusque-là, le Seigneur veut, sans doute, que Florette demeure jeune fille, afin qu'elle se puisse mieux donner au devoir d'exalter nos courages, de soutenir notre foi. » Une bouffée de colère soudaine m'envahit. Je marchais droit sur la Vivaroise, qui ne recula point, me regardant de ses grands yeux calmes et doux. « Ah oui, m'écriai-je, ce sont là vos raisons. Vous acceptez cette croyance absurde et sacrilège qui, depuis peu, se répand autour de nos camps. Il faut qu'elle reste vierge pour prophétiser. Et que m'importe à moi, cette Florette n'est-elle pas mienne? Dieu et mon maître Baduel ne me l'ont-ils pas donnée? Que ferais-je maintenant que ces visions folles me la ravissent sans pitié? Ah, sinistre imagination, et vous blâmez, pauvre fille, les superstitions papistes, alors que les vôtres sont pires mille fois. » Je ne continuais point. Florette et Lucrèce étaient tombées à genoux et priaient. « Seigneur, disait Florette, écarte le blasphème et pardonne au blasphémateur. Touche son cœur, suppliait Lucrèce. Ô Dieu, ouvre ses yeux, qu'il croie et voie.